Il est 7h à Paris, 8h à Kiev. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Et bonjour Martin Guez.
Et bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
À la une de votre journal, réchauffement diplomatique entre l'Ukraine et les États-Unis.
Réunis à la table des négociations à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et cette proposition américaine, justement sur la table, un cessez-le-feu de 30 jours sur le terrain militaire. Proposition acceptée par Kiev, reste à savoir ce que répondra Moscou. Nous serons en ligne de la capitale ukrainienne dès le début de ce journal.
En Syrie, la commission d'enquête mandatée par la présidence déterminée à faire justice.
Justice pour les plus de 1200 victimes des massacres de ces derniers jours. Pour la grande majorité des Alaouites, minorité de l'ancien président Bachar el-Assad, des Alaouites qui ont trouvé refuge dans une base russe près de Latakia. Aux États-Unis, nouvel épisode dans la guerre commerciale de Donald Trump face à ses voisins, et même contre le reste du monde, entrée en vigueur de textes de taxes sur l'acier et l'aluminium ce mercredi. Nous serons aussi à Maurice pour la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, et nous finirons avec l'ouragan Maria Mazzotta, une des voix les plus puissantes de la Méditerranée, vous l'entendrez.
La porte est entrouverte pour un cessez-le-feu en Ukraine.
Kiev qui a accepté une proposition américaine lors de négociations hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour une trêve de 30 jours. Ce serait une première depuis le début de l'invasion russe. Il y a plus de 3 ans, on retrouve en direct de Kiev notre correspondante Cerise Sudry-Ledu. Bonjour Cerise.
Bonjour.
Cerise, les Américains ont annoncé la reprise immédiate de leur aide militaire à l'Ukraine. Ils ont donc fait une proposition de trêve acceptée par les Ukrainiens. Mais pour l'instant, personne ne s'emballe dans le pays car la Russie n'a pas encore fait part de ses intentions et a encore bombardé l'Ukraine cette nuit.
Oui, hein, ici à Kiev, c'est la méfiance qui domine. Hein, si tous les officiels soulignent une avancée très grande, ils insistent sur le fait que la balle est désormais dans le camp de la Russie. Car pour le moment, il n'y a eu aucune réaction du côté russe, même si les dirigeants américains ont dit devoir rencontrer le gouvernement russe dans les prochains jours. En Ukraine, la nuit a quant à elle été hachée pour beaucoup d'habitants et les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs régions. À Odessa, dans le sud du pays, un missile a touché un cargo dans le port de la ville. Il y aurait 4 morts dans les membres d'équipage selon les autorités ukrainiennes et une roquette vient également de s'abattre il y a quelques minutes sur la ville de Kiviri, à 400 km au sud de Kiev. À savoir également que le cessez-le-feu comprend un volet humanitaire. Une attention particulière de la déclaration a été accordée à la libération des prisonniers, des civils et au retour des enfants ukrainiens. C'était un point fondamental pour nous, a insisté une proche conseillère de Volodymyr Zelensky.
Merci Cerise Sudry-Ledu, en direct de Kiev sur RFI. Un réchauffement diplomatique et des avancées dont se félicitent l'Italie, la Grande-Bretagne ou encore la France, en particulier sur l'idée d'un possible cessez-le-feu, a réagi le président français Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le président américain Donald Trump devrait lui parler à Vladimir Poutine dans la semaine, comme il l'a annoncé hier soir en conférence de presse.
En Syrie, après les massacres, l'heure est à l'enquête et à la justice.
La commission d'enquête mandatée par la présidence syrienne déterminée à faire la lumière sur ces massacres dans l'ouest du pays. Au moins 1225 morts depuis le 6 mars dernier, des civils en grande majorité alaouites. Minorité dont est issu l'ancien président Bachar el-Assad. La nouvelle Syrie est déterminée à garantir la justice, a déclaré le porte-parole de la commission. Des milliers d'alaouites ont retrouvé refuge dans une base russe à Meyenim, près de Latakia. Théo Renaudon a pu s'entretenir avec l'un d'entre eux.
Des femmes, des enfants et des hommes assis sur du gazon entouré de tentes blanches et de motos. Ces alaouites, contactés par RFI, nous envoient des photos de leur campement de fortune à l'entrée de la base russe. L'un d'entre eux nous raconte.
Nous nous sommes réfugiés ici parce que c'était le seul endroit sûr près de notre village qui était attaqué par des terroristes armés qui tuaient tout, brûlaient tout, nos animaux de compagnie, nos oiseaux, nos poulets. Ils nous tuaient nous, ils tuaient tout le monde.
Malgré une aide précaire des militaires russes, les vivres commencent à manquer. Pourtant, pas question de quitter la base pour le moment.
Je ne me sens pas en sécurité. Il y a des gens qui attendent pour nous tuer simplement parce que nous sommes alaouites, simplement parce que nous appartenons à cette minorité. Je ne peux pas sortir tant que je sens ça. Si je sors, je suis mort.
Coincés dans la base, impossible pour eux de rejoindre le Liban voisin, comme des milliers d'autres alaouites réfugiés depuis vendredi.
Théo Renaudon, le nouveau régime syrien d'Ahmad al-Sharqi qui a par ailleurs trouvé un accord avec la minorité kurde du pays, prévoyant l'intégration de toutes les institutions civiles et militaires kurdes au sein de l'État syrien. Accord salué par la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan qui évoque une décision qui va servir la paix dans la région.
Toujours au Proche-Orient, des négociations sur la trêve à Gaza ont débuté à Doha au Qatar.
Des négociations indirectes, comme l'annonce le Hamas, alors que la première phase du cessez-le-feu entrée en vigueur le 19 janvier patine. Israël qui veut prolonger cette première phase, le Hamas qui veut en lancer une deuxième. Les rebelles houthis au Yémen qui ont stoppé leur attaque en mer d'Arabie depuis le mois de janvier ont eux annoncé qu'ils reprendraient leurs offensives si Israël ne permet pas la reprise de l'aide humanitaire vers Gaza. Aide humanitaire toujours bloquée pour le 10e jour consécutif. Israël qui poursuit par ailleurs ses frappes dans l'enclave, frappes qui ont fait 5 morts ce mardi.
Aux États-Unis, nouvelle coupe budgétaire et nouvelle taxe douanière.
Des purges dans l'administration américaine, réduction de 50% des effectifs du ministère de l'Éducation. Et donc de nouvelles barrières douanières sur les importations d'acier et d'aluminium à hauteur de 25% des taxes effectives depuis minuit, heure locale. Une décision totalement injustifiée selon l'Australie. Décision validée par le président Donald Trump qui a complètement déboussolé les marchés, Guillaume Nodin.
Une nouvelle fois, la bourse de New York a terminé dans le rouge, secouée par les ordres et les contre-ordres de l'administration. C'est d'abord Donald Trump qui menace de doubler le tarif pour l'aluminium et l'acier canadien en raison de l'augmentation du prix de l'électricité vendue aux États-Unis annoncée par le gouverneur de la province de l'Ontario qui finalement retire sa mesure. L'administration américaine recule à son tour par la voix d'un porte-parole avant que Donald Trump ne vienne expliquer à une assemblée de chefs d'entreprise qu'il croit plus que jamais aux droits de douane.
Plus élevés ils seront et plus il y aura de construction d'usines chez nous. Et au final, la plus grande victoire, ce ne sera pas les droits de douane, même si c'est important et que ça représente beaucoup d'argent. Mais la plus grande victoire serait qu'ils viennent dans notre pays et produisent ici. Ce serait une plus grande victoire que les droits de douane en eux-mêmes, mais cela va rapporter beaucoup d'argent à ce pays. Cela fait des années que de nombreux pays nous arnaquent, des décennies et des décennies. Ils faisaient la même chose, mais je crois que nous le ferons mieux.
But I think we'll do it better. Les économistes s'accordent pour dire que ce sont surtout les Américains qui vont payer le prix de ces droits de douane par l'inflation qu'ils risquent de générer. Mais Donald Trump n'y croit tout simplement pas et parle seulement d'une période d'adaptation. Il annonce au contraire de nouveaux droits de douane pour le début du mois d'avril, malgré l'inquiétude qu'il cause. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et l'Union européenne qui annonce déjà des mesures de rétorsion dès le 1er avril. Et puis pendant un temps, ces droits de douane ont même été annoncés à 50% pour le Canada avant un rétropédalage de Donald Trump. Donald Trump par ailleurs décidé à annexer le Groenland, l'île de l'Arctique, où se tenaient des élections législatives. Elles étaient très suivies, elles ont été remportées cette nuit par le parti d'opposition démocratite avec 30% des suffrages devant le parti pro-indépendance Nalérak qui veut s'affranchir de la tutelle danoise.
RFI 7h07 à Paris comme à La Haye où est attendu Rodrigo Duterte.
L'ancien président philippin de 79 ans transféré devant la Cour pénale internationale où il sera jugé pour crimes contre l'humanité et ce après des escales à Rotterdam et à Dubaï. Notre correspondante aux Philippines, Nemo Lecoq-James, était-elle au départ de son jet hier à Manille.
L'avion de Rodrigo Duterte s'est envolé sous les yeux dépités de ses partisans. Il a décollé à 23h03 heure de Manille et il a fait une escale à Dubaï après quelques heures de vol. L'ancien président est accompagné d'un ancien secrétaire exécutif, d'une infirmière et d'un assistant personnel. Son avocat, lui, a déclaré ne pas avoir été autorisé à s'approcher de l'avion. Dès son arrivée à La Haye, aux Pays-Bas, Rodrigo Duterte sera placé en détention puis assistera à une audience de comparution initiale. Hier soir, dès son départ des Philippines, le président Ferdinand Marcos Jr., qui est devenu un rival de la famille Duterte, a réagi. Selon lui, tout cela n'a rien de politique.
Nous sommes membres de la communauté des nations. On doit être à la hauteur de nos responsabilités et c'est ce qui se passe actuellement. La politique ne rentre même pas en compte.
Pourtant, l'arrestation de Duterte a déjà fait débat dans le pays et à l'international. La Chine a réagi hier soir. Duterte est un ami du président Xi Jinping. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Cour pénale internationale devrait faire preuve de prudence dans l'exercice de ses fonctions et ne pas suivre de deux poids, deux mesures. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Plus de 150 otages libérés au Pakistan.
Au terme d'une opération à grande échelle de l'armée pakistanaise, alors qu'un train reliant Quetta, la capitale du Baloutchistan, à Peshawar, a été attaqué hier par l'armée de libération du Baloutchistan. 27 assaillants ont été tués, ainsi qu'un policier, un soldat et le conducteur du train. Pour l'instant, 155 des 450 passagers du Jaffar Express ont été libérés. Les autres sont toujours pris en otage.
Narendra Modi est à Port-Louis, capitale de Maurice.
Sa deuxième visite en tant que chef du gouvernement indien. Un court déplacement qui coïncide avec les 57 ans de l'indépendance mauricienne. Dans un moment de bonne entente entre le géant continental et le petit archipel de l'océan Indien. Plusieurs accords de coopération dans concernant la sécurité maritime et la recherche océanographique doivent être signés. Narendra Modi venait aussi soutenir Navin Ramgoolam, le Premier ministre mauricien revenu au pouvoir il y a 5 mois. Correspondance d'Abdoulaye Rally.
Indépendamment des changements politiques, l'Inde a toujours maintenu des liens étroits avec Maurice, parce que l'île est bien plus qu'un partenaire pour New Delhi. C'est une mini-India, selon les propres mots de Narendra Modi. L'île constitue en effet une pièce essentielle dans la stratégie régionale indienne. Pour cette visite, le Premier ministre indien vient notamment consolider l'accord sur Agalega, une île lointaine de la République mauricienne où l'Inde a installé un poste d'observation militaire. Ce partenariat, pour lui, New Delhi, permet à l'Inde d'étendre sa surveillance maritime dans cette zone stratégique du sud-ouest de l'océan Indien. Il s'inscrit dans le cadre de son projet SAGAR, ce programme de sécurité maritime régionale qui a pour objectif principal de contrer l'influence de la Chine dans l'océan Indien. Dans cette optique géopolitique, l'Inde s'aligne avec les États-Unis. Cette alliance s'est d'ailleurs manifestée lors des négociations avec Londres et Washington pour la rétrocession des Chagos à Maurice, processus auquel participe New Delhi. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
En Roumanie, fin de partie pour le candidat populiste.
Călin Georgescu, pourtant arrivé en tête du premier tour de la dernière élection présidentielle, mais le candidat d'extrême droite a vu la Cour constitutionnelle rejeter son appel. Le voilà définitivement exclu de la course électorale. Plusieurs centaines de ses soutiens ont protesté hier devant le Parlement. La Cour constitutionnelle qui avait annulé le scrutin du 24 novembre dernier, constatant de multiples irrégularités sur fond d'ingérence russe.
On termine avec les ondes de Maria Mazzotta.
Une des voix les plus singulières de la Méditerranée, chanteuse italienne, icône des Pouilles, région du sud de l'Italie. Elle sort un nouvel album, Onde, cela veut dire vague en français, la vague Maria Mazzotta qui emporte tout, y compris Carmen Lisman.
Elle chante son amour et sa rage face à la mer, cette Méditerranée devenue si cimetière de bateaux et de tant de migrants qui ont essayé de la traverser. De la douceur d'une berceuse à la force d'une tempête, Maria Mazzotta passe par des états d'âme aussi contrastés que les vagues de la mer. Dans son album Onde, elle insouffle un vent nouveau au chant traditionnel de la Méditerranée. Du fond de ses poumons, son tambour italien à la main. Pour apporter une touche plus rock, plus groove, plus urbaine, Maria Mazzotta a embarqué 2 autres musiciens italiens aux percussions et à la guitare électrique. Mais ce qui fait la force de cet album, c'est la voix de la chanteuse. Une voix aux innombrables nuances, tantôt rauque et viscérale, tantôt délicate et fragile. Une voix qui lance un appel pour plus d'humanité et de solidarité et qui invite aussi un guitariste touareg nigérien, Bombino, pour ce titre « Tu ne peux pas être seul ».
Maria Mazzotta et Bombino qui nous envoient leurs bonnes ondes. Moi, je vous laisse avec celle d'André de Mellard.
Merci Martin Guez et on en reparle tout à l'heure dans le choix musical d'RFI. 7h13 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 5 minutes. Notre invité, Monseigneur Jacques Mourad, archevêque de Homs, Hama et Nabec pour les Syriaques catholiques. Il répondra aux questions d'Arnaud Pontus. Mais d'abord, l'infosport. Avec Baptiste Leduc ce matin. Bonjour Baptiste.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Allez, on parle foot et cette énorme performance du PSG hier en Ligue des Champions. Les Parisiens sont allés chercher la qualification en quart de finale à Liverpool.
Anfield, terre réputée imprenable pour les clubs français en Ligue des Champions, c'était sans compter sur la formidable solidarité des Parisiens hier. Après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé, le PSG a longtemps subi les assauts anglais sans jamais céder, avant de terrasser les Reds au tir au but grâce à un grand Gianluigi Donnarumma. Le capitaine Marquinhos a loué l'état d'esprit irréprochable de l'équipe.
Donc on teste, ça a été vraiment très difficile pour nous. On a perdu le premier match à la maison, il fallait venir ici à Anfield. Et on connaît de la difficulté, qui sait, il y a très peu d'équipes qui arrivent à s'imposer ici. On a réussi, on a fait un super boulot. Je pense qu'on a su gérer nos temps faibles et profiter un peu de notre temps fort. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré ce qu'est le caractère de l'équipe, ce qu'est la personnalité de l'équipe, le collectif qui c'est notre plus grande force. Il faut vraiment féliciter tout le monde. Tout le monde a défendu quand il faut. On a réussi à mettre notre plan en jeu. On a eu quelques moments de difficulté, mais on a su vraiment tenir. Et avec l'aide, le collectif de tout le monde, même ceux qui ont rentré, il faut le féliciter tout le monde.
Marquinhos, averti hier, sera suspendu pour le quart de finale aller. Ce sera contre Bruges ou d'autres Anglais, Aston Villa. Les deux clubs s'affrontent ce mercredi.
Qualification en quart de finale également du Bayern Munich, de l'Inter Milan et du FC Barcelone qui a déroulé contre le Benfica.
Victoire 3-1 pour les Blaugrana après le succès 1-0 à l'aller. Une prestation solide du Barça qui s'affirme comme un des favoris de la compétition. L'entraîneur des Catalans, Hansi Flick, avait le sourire hier.
I'm really happy with that because we played against Benfica and Benfica is a really good team.
Je suis très heureux de la qualification. On a joué contre une très belle équipe de Benfica. Leur entraîneur effectue un travail fantastique. J'ai beaucoup de respect pour notre adversaire. Notre match est abouti. Je redoutais les transitions de Benfica, mais les joueurs ont répondu présent. Ils ont réalisé un grand match. On a eu le contrôle du ballon. On a été dominant tout au long de la rencontre et on aurait pu même marquer un voire deux buts de plus. Mais le plus important, c'est la qualification en quart de finale.
We also were able to score one or two goals more, but at the end we are happy that we are in the quarterfinal.
En quart, le Barça retrouvera Lille ou le Borussia Dortmund.
Les deux clubs qui s'affrontent justement ce mercredi. Tout reste ouvert après le match nul, un partout de l'aller.
La qualification serait historique pour Lille, mais en face, un adversaire certes en grande difficulté en championnat, mais toujours dangereux dans les grands rendez-vous, le Borussia Dortmund. C'est l'avis de l'entraîneur lillois Bruno Genesio.
Borussia est le dernier finaliste de la Champions League. Et pour aller en finale, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain. Donc ça montre toute la qualité de cette équipe. Deuxièmement, ils ont des joueurs extrêmement expérimentés qui ont davantage l'habitude de jouer ce genre de match que nous. Et troisièmement, sur leur parcours en Champions League notamment, ils ont 3 victoires sur les 4 déplacements qu'ils ont effectués dans la phase de groupe. Ça montre toute la qualité de cette équipe qui, il est vrai, en championnat n'a pas les résultats escomptés, mais qui est d'une toute autre équipe en Champions League. Donc pour moi, ça reste du 50-50 avant ce match retour.
Lille-Dortmund, coup d'envoi à 17h45 en temps universel.
Baptiste Leduc.
RFI Matin.
Bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
Dans Aujourd'hui l'économie, ce matin, on se penche sur les relations entre la France et l'Ouzbékistan, pays d'Asie centrale. En effet, le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, est en visite d'État à Paris aujourd'hui. Visite tout sauf anecdotique, hein, Stéphane, car derrière elle se cachent des enjeux économiques très importants.
Oui, car même s'il faut l'avouer, la France et l'Ouzbékistan ne sont ni pour l'un ni pour l'autre des partenaires commerciaux de premier plan, mais ils échangent tout de même. Paris est ainsi le 16e partenaire commercial de ce pays d'Asie centrale, dont la capitale est Tashkent, restant ainsi un fournisseur secondaire très loin, derrière la Chine, la Russie et le Kazakhstan qui occupent ce podium.
Et qu'est-ce que les deux échangent ?
Alors, tout un tas de choses. En 2023, la France exportait pour 621 millions d'euros, une tendance à la hausse puisque c'est 5 fois plus qu'en 2019. L'industrie française y envoie des avions, des parfums, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques ainsi que des machines et des équipements notamment agricoles. Il en sera d'ailleurs question durant cette visite d'État. Mais l'Ouzbékistan, pour sa part, exporte peu vers la France, c'est vrai. Pour autant, 90% de ses exportations correspondent à des livraisons de composés d'uranium, autant dire, Andréane, la quasi-intégralité.
Et c'est là que ça devient intéressant pour Paris.
Oui, et l'Élysée n'y va pas par quatre chemins, hein, en affirmant que cette visite d'État du président ouzbek est notamment consacrée au renforcement de la coopération sur les métaux rares et stratégiques. Fin de citation. L'uranium en fait évidemment partie et il est grandement utile à la souveraineté énergétique tricolore puisqu'il fait fonctionner les centrales nucléaires. Paris pourrait trouver ainsi une alternative aux exportations nigériennes. Le géant français Orano ayant suspendu son activité d'extraction au Niger. Orano qui opère d'ailleurs déjà en Ouzbékistan.
L'Ouzbékistan justement qui a aussi beaucoup à gagner à sceller des partenariats avec la France.
Absolument. L'ancienne République soviétique voit en la France une alliée idéale dans sa métamorphose. Le pays connaît une croissance aux alentours de 6% par an. Sa démographie explose. Et surtout, Tashkent veut réduire sa dépendance au gaz d'une part et à la Russie d'autre part. La France est ainsi une solution car elle possède le savoir-faire et les technologies pour relever ce défi.
Comme ces grandes entreprises.
Dans le mille, Andréane, la France a ses champions, par exemple pour la transition énergétique que souhaite opérer l'Ouzbékistan. EDF, qui est le plus gros investisseur tricolore dans le pays à hauteur d'1 milliard d'euros, a 2 projets en cours de centrales thermiques. Total Energy a ouvert quant à elle une centrale solaire photovoltaïque. En tout, ce sont une cinquantaine d'entreprises qui sont implantées dans l'ancienne République soviétique.
Et il n'y a pas que la France qui est intéressée et qui intéresse l'Ouzbékistan.
Non, plus largement, c'est l'Asie centrale qui attire la France et les pays occidentaux. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'y est d'ailleurs rendu en septembre dernier pour des raisons à peu près similaires. On a donc bien compris, les deux pays ont beaucoup à gagner à s'entendre et cette visite d'État en est l'illustration. Nul doute que des contrats seront signés dans les prochaines heures entre la France, l'Ouzbékistan et surtout leurs grandes entreprises nationales.
Stéphane Genest, 7h20 à Paris, tout de suite on va retrouver notre invité. En ligne avec Arnaud Pontus ce matin, Monseigneur Jacques Mourad, archevêque de Homs, Hama et Nabek pour les Syriaques catholiques.
Bonjour Monseigneur Mourad.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RFI, alors que la Syrie vient de vivre ses pires violences depuis la chute de Bachar al-Assad. Au moins 1225 civils tués ces derniers jours. Les victimes sont en grande majorité des Alaouites, la minorité musulmane du clan Assad. Est-ce que vous êtes inquiet pour la stabilité de votre pays ?
Et aussi, il y a des victimes de la part des sécurités de la nouvelle gouvernement.
Oui, il n'y a pas que des victimes alaouites.
Aussi. Oui. Non. Mais la majorité sont des alaouites. Et il y a quelques chrétiens aussi. Parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils vivent dans les quartiers alaouites.
Oui, vous nous dites que les chrétiens, oui. Dans ce qui s'est passé ces derniers jours, n'ont pas été délibérément ciblés.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de victimes chrétiennes qu'il y a eu ces derniers jours, puisque vous nous en parlez
Selon les données que j'ai, sont 12 personnes.
Oui, donc c'est extrêmement minoritaire par rapport aux 1225 civils tués. Est-ce que vous percevez le risque de voir s'installer un climat de vengeance dans votre pays ?
Mais il existe déjà depuis le début de la grande changement qu'il y a cette vengeance. Depuis la première semaine, ils ont commencé à entrer dans les villes et les villages alaouites et massacrer et mettre en prison. Nous étions contents que tous les prisons de Syrie étaient vides après la chute de Bachar. Et on a vécu vraiment la joie de la libération, mais aujourd'hui, tu trouves que toutes les prisons sont remplies, et bien sûr, la majorité sont des alaouites.
Oui, parce qu'on veut faire payer aux alaouites les crimes exact. Du clan Assad.
Exact. D'ailleurs, elles sont tous des civils. La plupart sont des civils qui n'ont rien à faire avec le régime de Bachar. Par contre, les alaouites, ils ont payé beaucoup plus que les autres à l'époque, pendant toutes les années de la guerre à l'époque de Bachar, parce qu'ils ont donné leurs jeunes et ils ont appauvri d'une façon inimaginable.
Oui. Monseigneur Mourad, les nouvelles autorités syriennes ont mandaté une commission d'enquête pour faire la lumière sur les violences de ces derniers jours, les violences depuis le 6 mars. Est-ce que vous avez confiance ? Est-ce que ça vous rassure ?
Si la communauté internationale, elle veut vraiment, vraiment, elle est sérieuse pour aider le peuple syrien et la Syrie de ne pas transformer à la Libye et à d'autres pays où il y a des massacres et des guerres tout le temps depuis des années. Il faut qu'il envoie des casques bleus pour protéger les civils et protéger les frontières, soit les frontières avec Israël, soit les frontières avec la Turquie. Parce que tous ces militaires armés qui font les revanches dans tous ces villages, ils ont eu leur formation en Turquie.
Monseigneur Mourad, si je vous entends bien, vous dites envoyer des casques bleus en Syrie pour éviter de nouvelles violences. Là, vous nous décrivez un climat de guerre civile.
Mais oui, mais qu'est-ce que nous attendons plus? Il y a tous les jours des victimes, il y a tous les jours des civils qui tombent morts pour rien, il n'y a pas une raison, juste parce que il y a des groupes armés fanatiques terroristes qui veulent imposer la charia de l'État islamique, de califat sur la terre syrienne, où ce n'est pas possible de réaliser ça dans un pays comme la Syrie.
Oui. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, toutes les minorités sont en danger en Syrie?
Bien sûr. Justement parce qu'on n'a pas de confiance à la nouvelle gouvernement actuel, parce qu'il y a un grand déchire entre les discours que Ahmad Sharaa.
Oui, il y a une grande différence entre ces discours. Oui, il y a une grande différence entre ces discours. On a encore en tête ce qu'il disait au début, la promesse de l'ouverture d'une nouvelle page, d'une Syrie libre, inclusive. Et vous avez voulu y croire au début, d'ailleurs, Monseigneur Mourad.
Bien sûr. Moi, j'ai cru, et la majorité du peuple syrien, ils ont cru à ce qu'il a dit et nous étions vraiment à côté de lui. On a soutenu, on a espéré, on a fait des discours d'espoir et de courage à tout le peuple. Mais maintenant, on se trouve dans une position pas bien, pas du tout, parce que nous étions, perdus, quoi.
Ça veut dire que 3 mois après la chute de Bachar al-Assad, les espoirs que vous aviez émis, portés, sont très déçus aujourd'hui.
Bien sûr. Surtout après la Congrès national qui n'a pas été au niveau de l'attente du peuple syrien.
Oui, c'est la conférence sur le dialogue national qui a eu lieu à la fin du mois de février, et on a vu une conférence très, très rapide et très peu inclusive.
Oui. Et la présence, le représentant n'était pas au niveau de ce que nous avons souhaité et attendu. Parce qu'il n'y avait pas toutes les communautés qui ont été représentées là-bas.
Que peuvent faire les chrétiens de Syrie pour œuvrer à une réconciliation nationale aujourd'hui, Monseigneur Mourad?
Alors, actuellement, avec toute cette violence qui existe, très peu on peut faire, très peu. Si il n'y aura pas une aide pour chasser tous ces étrangers, tous les Syriens qui sont engagés avec cette chemin de terrorisme, on n'arrive pas à travailler sur la réconciliation, surtout avec les Alaouites, parce que le mal qui ont reçu, c'est vraiment très dur et pas facile de vivre pour maintenant la réconciliation. Oui. Il faut des années.
Merci, Monseigneur Mourad, d'avoir été en ligne avec nous et on a entendu votre appel à la communauté internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
dépression, exaltation, comment le trouble bipolaire agit-il sur l'humeur?
Demain,
la sexologue de l'émission Noël Caillarcy vous répond en direct.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
L'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France, pour autant elle est très peu enseignée. Pourquoi ? Il manque des profs, elle est difficile, elle a une mauvaise image, il y a une coupure dans la transmission. Pour faire le point, l'INALCO organise un colloque. Quelle place pour la langue arabe et laquelle ?
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Coula, coula, coula.
Tout à l'heure sur RFI.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
À la veille des 30 ans de Couleur tropicale, nous vous convions à la libre antenne des auditeurs leaders, c'est-à-dire vous. Tous les sujets sont permis. Au cœur des échanges, les cultures afro. Envoyez dès maintenant votre sujet sur notre WhatsApp au 00336 37 42 62 24. 00336 37 42 62 24.
Couleur tropicale.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI.